vendredi 28 septembre 2012, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Et comme à l'habitude, ben c'est pour notre rendez-vous hebdomadaire sur l'univers de la bande dessinée autour de cet univers. Un univers qu'on étendra d'ailleurs cette semaine à la sphère du web, puisqu'on aura l'occasion de parler avec Gauthier Langevin, qui est chef de projet de la plateforme Kimik. Ça, c'est une plateforme web de bande dessinée, donc de diffusion, de distribution de bande dessinée. C'est développé un peu à la manière de feuilleton, à la manière épisodique. C'est pas un blog, par contre, parce qu'il y a plusieurs créateurs, il y a une forme qui est différente également des blogs BD qu'on connaît. Donc, on en arrive avec une structure vraiment qui est plus une plateforme de diffusion web de bande dessinée à proprement parler. Donc, on développera tout ça tout à l'heure. Et également, côté rencontre pour cette semaine, on aura le plaisir de jaser avec Simon Banville. Simon Banville, qui est l'auteur de la série Asymptote, un deuxième tome qui vient de paraître aux 400 coups. Une série que vous connaissez peut-être, certes, par les albums, mais également par sa présence dans différents quotidiens hebdomadaires et mensuels. On pense notamment aux 24 heures du côté de Montréal, à l'autre journal, un peu partout en province, entre autres choses. Alors, donc, un sérial qui se retrouve dans différentes plateformes et un deuxième tome qui vient d'arriver côté album. Alors, on reste aussi un peu sur la sphère web avec Asymptote, d'ailleurs. Donc, ça serait intéressant d'explorer tout ça. Également, puisqu'on parle d'exploration, mais il y aura Thomas-Louis Côté qui sera avec nous, donc notre collaborateur, qui sera de passage pour nous parler un peu de pont, justement, entre bande dessinée et politique. Et encore là, le point de départ, l'amorce fait par les blogs. On l'a vu notamment autour du printemps Érable. On en a parlé la semaine dernière lors de notre rencontre avec André et Caddy autour du collectif Je me souviendrai. Donc la créativité BDesque politique et engagée sur les blogs qui était effervescente au printemps dernier. Alors une amorce de réflexion, est-ce que la BD québécoise se fait un peu plus politique? Est-ce qu'elle l'est depuis déjà longtemps et pourrait-elle l'être plus? Donc c'est les trois questions à la base de la chronique de Thomas-Louis cette semaine. Et dans quelques instants, on jase avec Anne-Marie Olivier qui nous partage ses commentaires BD pour aujourd'hui. Alors ça, c'est le menu pour l'émission. Sinon, petit clin d'œil, puisqu'on parle de bande dessinée et politique, il y a une série BD très agréable, très bien faite, qui s'appelle Quai d'Orsay. C'est parmi nos coups de cœur, notamment en janvier dernier, les miens et ceux de mes collaborateurs. Et c'était nominé également au prix BDIS Causa de la BD étrangère. Donc, série Quai d'Orsay. Un deuxième tome qui était sorti, mais là, le premier tome va servir de base pour une adaptation cinématographique. Alors, ce serait intéressant, on a eu plusieurs adaptations cinéma de projets BD, de produits BD. Par contre, c'était souvent des produits autour de BD d'aventure et autres science-fiction. Et donc, dans ce cas-ci, c'est résolument une BD politique, un commentaire aussi sur l'état de la politique et des jeux politiques en France et ailleurs. Alors, ce serait intéressant de voir comment ça va se passer. Donc, Christophe Blain et Abel Lanzac ont participé au scénario du film. C'est Bertrand Tavernier qui va réaliser et entre autres, ça va être avec Thierry Lhermitte. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Et quand même, c'est un gros succès de librairie, ça. Le premier tome, 120 000 exemplaires, si je ne me trompe pas. Alors voilà pour ce petit clin d'œil. Et en musique pour cette semaine, eh bien, c'est une formation canadienne qui s'appelle Music for Money qui va nous accompagner au fil de l'émission et on se lance avec un premier extrait, Fragile. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes de CKRL 89.1 et maintenant on a le plaisir d'être en compagnie de nos collaborateurs de retour pour 2012-2013. Thomas Louis Côté, bonjour.
Bonjour.
Et Thomas Louis, enfin on sort d'une période électorale, on a eu des conflits sociaux également au printemps dernier, donc bref, la politique a animé nos vies, a-t-elle animé les BDistes également, donc on va faire les ponts entre politique et BD cette semaine.
Oui, mais surprenamment, moi je trouve que pour ce qui est des élections provinciales, il y a eu plus ou moins ou peu d'initiatives. Dans le fond, en bande dessinée, on avait connu pour le printemps érable vraiment un boom incroyable d'initiatives, que ce soit des blogs et tout. Mais pour les élections, tu me parlais plutôt hors d'onde de Boom qui avait illustré des choses pour Québec solidaire, mais en fouillant un peu dans les blogs, il y a eu des notes personnelles, il y a eu un peu de tout, mais pas de choses qui s'est démarquées, je trouve.
Ça, c'est resté dans la caricature, mais ouais, pas dans la BD.
Exact. Beaucoup, beaucoup de caricatures, tout de même. Des gens comme Yvon Roy qui en ont fait beaucoup. Mais pour ce qui est du printemps érable, donc ça, par contre, ça a été un foisonnement d'initiatives. La Maison des auteurs à Montréal, des gens de la Maison des auteurs, des gens comme Vincent Giard et Cédric Plante qui ont parti la manif de Bonhomme, qui a vraiment marqué un peu l'événement, parce que pour le nombre de personnes qui ont participé,
il y a eu...
Au-dessus de 100 participants, il y a eu des rassemblements à Québec, à d'autres endroits, pour contribuer à ça. Oui,
puis elle a été exposée pour vrai en papier, là aussi.
Hein, effectivement, puis elle le sera probablement à Québec aussi durant le festival. Mais ça a été présenté à Montréal. Et les gens de la Maison des auteurs ont fait quand même plusieurs blogs pour parler de différents sujets durant la manif. Donc, illustration pour expliquer la hausse. Il y a aussi une quinzaine d'auteurs qui ont participé à ça. Des gens comme Caton, Jimmy Beaulieu, Luc Bossé, Sviane. Puis même équipe pour dépasser la ligne aussi qui est issue du même groupe. La Maison des auteurs qui a été très, très, très active avec des gens comme Vincent Giard derrière ces projets-là. Notamment. Sinon, il y a plein de gens qui ont illustré par leur blog ou des choses. Laurence Lemieux, entre autres, David Turgeon, Alexandre Fontaine-Rousseau et d'autres. Donc ça a vraiment permis plein d'initiatives et il y a eu André Cadie, que tu as reçu dernièrement, qui lui a fait un ramassis de tout ça, dans le fond, pour Je me souviendrai, avec du matériel original aussi beaucoup, mais qui a permis quand même de recenser un peu ce qui s'est fait durant le printemps érable comme initiative, publiée assez comiquement par une maison européenne, mais en tout cas, tu as sûrement l'histoire de tout cela. Et sinon, ben tu vois, il y a aussi Passion Rougeman de Philippe Girard.
Qui a beaucoup marché côté fanzine, en fait. Je voyais qu'il est en demande, en redemande, puis 3-4
éditions. En réimpression et tout. Non, c'est un véritable succès, mais un peu comme Je me souviendrai, qui a été quand même dans les palmarès de vente au Québec, qui reste un ouvrage de mémoire super intéressant, justement pour tout ce qui s'est passé durant le printemps érable en termes de bande dessinée. Mais, comme je disais, au niveau des politiques provinciales, donc des élections, ça a été plus tranquille. Cela dit, la politique au Québec a inspiré de tout temps les illustrateurs et les BDistes. On a qu'à penser aux premiers illustrateurs des journaux québécois, Raoul Barré et d'autres, qui avaient dans leurs caricatures, voire même dans leurs premières bandes dessinées, beaucoup la politique jouait un grand rôle.
Donc ça a été un pont dès le départ, dans le fond, c'était un pont un peu naturel entre les deux univers, entre l'univers politique, entre l'univers BD.
Exact. Puis il y a eu des magazines comme Crow qui ont quand même fait une place à la politique assez importante. C'était corrosif, c'était mordant, mais la politique, il jouait un grand rôle. Ça a inspiré beaucoup, beaucoup d'auteurs. Petite parenthèse, d'ailleurs, par rapport à Crow, il y a un ouvrage qui est présentement en préparation par Jean-Dominique Leduc et Michel Viau. Jean-Dominique Leduc qui est journaliste, Michel Viau qui est éditeur, qui a été impliqué de tout temps là, dans le milieu de la bande dessinée, qui font un ouvrage qui s'appelle Le Monde de Crow. Et je vous invite, si vous voulez, à visiter sur Facebook leur page, parce qu'ils sont toujours à la recherche de certains éléments ayant été publiés par Crow, notamment, je sais, Le Doigt, qui a été publié suite à Crow plus tard, et certains ouvrages, en tout cas, qui ont été publiés dans les débuts de Crow. Donc, si jamais vous avez beaucoup de matériel par rapport à Crow, regardez, je pense que c'est Le Monde selon Crow sur Facebook, et il y a une liste là des choses qu'ils recherchent.
Et ça risque, cet ouvrage-là, justement, comme tu disais, de devenir aussi, entre autres choses, évidemment, recenser en partie le travail fait autour de la politique par des BDistes.
Par différents auteurs.
Puis voir, dans le fond, parce que c'était quand même vraiment une tangente, un style, un univers assez cohérent, malgré la quantité de collaborateurs qu'il y avait dans le magazine.
Les politiques éveillent les passions, donc... Oui. Et la créativité par le fait même. Donc, c'est sûr que dans n'importe quel médium, la politique influence. En bande dessinée, ce qui est le fun, c'est qu'on voit vraiment les gens prendre position et l'humour aussi qui s'en dégage au-delà de l'humour mordant, là, mais c'est assez intéressant.
Puis peut-être qu'aujourd'hui, en fait, on le voit avec le printemps arabe, il y a un peu une réappropriation grâce au blog, au journal, à travers l'opinion aussi. Donc,
oui, c'est un nouveau média. Les gens ont des tribunes. Et avec le réseau des lecteurs de blogs, les réseaux sociaux, Facebook a fait beaucoup de choses pour le partage des images. Dès qu'il y avait, par exemple, Estelle Bachelard qui a fait des pages de BD qui se sont partagés beaucoup, et ça permet de créer un lectorat pour ces gens-là. C'est sûr que ça peut aussi mettre certaines personnes dans de drôles de positions. Une fois que tu t'affirmes dans un clan, on a vu très, très peu d'exemples qui étaient portés plus sur la droite ou le carré vert.
Voir aucun.
Donc, c'est assez particulier de voir. C'est très gauche, mais le milieu culturel, on le sait, est plus gauche. Là.
Mais j'ai l'impression qu'au Québec, on n'est pas encore, malgré le fait que c'est aussi présent depuis aussi longtemps, reste que il y a pas encore nécessairement ce réflexe-là de BD politique et beaucoup d'initiatives, à part quelques projets, mais il n'y a pas de grandes initiatives ou d'initiatives régulières qu'on voit arriver vers la sphère livre, de la BD de reportage, des trucs comme ça. Ça me semble pas encore beaucoup exploité politiquement au Québec.
Ben effectivement, si on regarde, on compare avec des choses qui sont faites en France. Je voyais dernièrement Mathieu Sapin qui a fait un livre sur la campagne de François Hollande. Donc il a suivi 200 jours dans la campagne de François Hollande. Donc Mathieu Sapin a suivi vraiment avant que même on puisse espérer qu'il soit élu en France, tout son parcours, et ça crée un ouvrage hyper intéressant, un regard de l'intérieur du milieu politique au niveau fictif, des choses comme Quai d'Orsay, donc ont vraiment relancé au niveau de la politique. Toi, tu me disais tantôt que tu as appris que Quai d'Orsay...
Oui, en fait, il va y avoir une adaptation filmique, donc l'œuvre poursuit son chemin, mais en fait, effectivement, c'est intéressant de voir des œuvres aussi achevées ou des opportunités de reportage, comme tu dis, Mathieu Sapin, 200 jours avec François Hollande. L'élection n'était pas gagnée, j'imagine, 200 jours non. Avant de A puis de B. C'est du niveau d'à hauteur d'or, mais en termes d'accès documentaire.
Là. Oui, ben lui, il l'avait fait déjà dans d'autres domaines, c'est-à-dire qu'il avait fait à la rédaction de Libération, il les a suivis pendant un certain temps, puis il a fait un ouvrage là-dessus. C'est lui qui avait fait son premier reportage du genre, c'était le making-of du film de Johannes Fahr, Gainsbourg. Donc, c'était une super façon de redécouvrir un film à travers ses dessins, l'historique du making-of. Et je crois que la bande dessinée permet d'aller plus loin des fois, parce que les gens sont pas intimidés par la caméra. C'est vraiment un regard d'observateur, et ensuite, il prend ses croquis, ses dessins, puis il retravaille. Donc, je trouve que c'est une belle façon d'explorer. Puis au Québec, ce serait peut-être intéressant, justement, de voir le même type d'initiative, d'avoir quelqu'un en bande dessinée qui suit chacun des clans pour voir un peu comment ça se passe dans les coulisses, au-delà du serrage de main et des soupers spaghettis.
Et ça, on le fait un peu en journalisme d'enquête, ou on le fait sinon à travers la BD, mais dans le contexte d'événements culturels. On pense au Festival d'été qu'il fait de manière de plus en plus spontanée dans ses blogs et dans d'autres...
D'inviter
des illustrateurs, des BDistes, mais pourquoi pas justement dans d'autres sphères. Et on l'a vu en plus, outre les exemples français, des trucs comme de la BD de reportage en général, un mode assez efficace. Donc.
Oui, puis on a eu, comme vous le savez, le plaisir d'accueillir Guy Delisle cet été, et on a pu en parler amplement, dans le fond, dans les conférences qu'il a fait, les rencontres. La BD de reportage est un style qui est sur une lancée. Au Québec, c'est peut-être un peu moins présent que ça peut l'être, ne serait-ce qu'aux États-Unis et en France, mais reste que j'espère que c'est un style qui va se développer, parce que c'est une hyper belle façon de faire de montrer des univers, de faire apprendre des réalités à certaines personnes, mais d'un regard extérieur et justement qui dérange pas. Donc il y a pas de caméra, il y a pas de, c'est pas intimidant pour les gens. Donc c'est, on a vraiment une vraie réalité.
Et j'ai peut-être l'impression, si on extrapole un peu, Thomas Louis, le succès justement d'un bouquin comme Je me souviendrai, tu l'as dit, les ventes, c'était numéro un dans certains magasins côté BD. Ça a peut-être incité d'autres gens à faire des projets un peu plus socialement engagés, politiquement engagés aussi dans ce style-là.
Oui, cela dit, je pense qu'il y a encore, il y a plusieurs personnes qui le font déjà, mais ça peut encourager des éditeurs à les publier.
Exactement.
Ce qui peut être une belle chose, parce que oui, il y a un nombre certain d'éditeurs au Québec, et s'il y a d'autres éditeurs qui font pas nécessairement dans la BD, mais qui voient ces succès-là, peuvent aller se créer des niches dans de la bande dessinée, je sais pas, de reportage, bande dessinée plus engagée, et je pense que ça ne serait que bénéfique pour les auteurs au Québec.
Oui, parce que comme tu le disais, en fait, ça se retrouve beaucoup sur des blogs, sur la toile, mais le pas à franchir, qui est pas nécessairement facile, autant là-dedans qu'ailleurs, c'est le pas de l'édition.
Oui, puis ça garde une trace, comme Je me souviendrai, il y a eu la volonté justement de rassembler plusieurs initiatives qui ont eu beaucoup de succès via Internet. Mais une fois l'événement passé, une fois les blogs, les années passent, puis on n'en entend plus parler, il n'y a plus de traces nécessairement de ça. Je me souviendrai rassemble vraiment des choses qui ont marqué durant la période du printemps érable, et ça garde une trace pour toujours, dans le fond, de ça, là.
Et donc, quel regard, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, Thomas Louis? Quel regard on devrait garder un peu quand on pense BD, politique, le passé, l'avenir? Donc,
ben, je pense que le printemps érable, puis les réactions qu'il y a eu par rapport à toutes les initiatives, moi, j'inviterais les auteurs, puis les gens qui font de la bande dessinée, l'illustration, à en faire de plus en plus. Profiter des événements, justement, pour créer et se faire voir. T'sais, s'il y avait eu plus d'initiatives durant les dernières élections, je pense que ça aurait relancé, ça aurait été intéressant. Il y a plusieurs, tu sais, toutes les opportunités sont bonnes pour créer, mais de s'accrocher à l'actualité, des fois, ça permet des opportunités intéressantes, là.
Oui, puis en fait, exemple aussi, Francis Desharnais avec son projet Burquette, avec des strips aussi inspirés directement, oui, de l'actualité, c'en est un exemple.
Oui.
Et donc, ça montre que ça peut se faire aussi, même en gardant une création très très spontanée, entre guillemets, là.
Oui, mais plusieurs le font comme en exercice. Là, Francis, au départ, son Francis Desharnais, son Burquette, l'idée de faire un strip quotidien sur un sujet d'actualité, c'est un défi qui s'était lancé, mais qui donne de très heureux résultats. Donc, ça peut être une opportunité à exploiter aussi pour d'autres auteurs. Et qui sait, éventuellement, des strips comme ça sur l'actualité pourraient s'insérer dans des médias, des quotidiens et tout, au même titre que la caricature. Donc, d'amener des strips sur l'actualité plutôt qu'une simple caricature.
Alors, on lance l'idée.
On lance l'idée.
Et on se reparle de ça ou d'autres choses la prochaine fois, dans à peu près un mois.
Parfait. Ben, à très bientôt.
À très bientôt. Thomas Louis Côté, merci beaucoup. Et voilà, on vient d'entendre un autre extrait de la formation Music for Money. C'est tiré de leur excellent album Flying Bird. Vous pouvez mettre la main d'ailleurs là-dessus via le site Bandcamp. Et maintenant, ben, au bout du fil, on est rejoint par Anne-Marie Olivier. Bonjour.
Bonjour, Raymond.
Ça va bien?
Oui, merci.
Et de passage, en fait, à nouveau cette année et au fil justement de la saison 2012-2013 pour nous partager tes commentaires, tes regards sur la sphère BD.
Oui.
Et on commence immédiatement, en fait, deux albums pour cette semaine. On va parler tout à l'heure de Highlands, nouvelle série de Philippe Aymon chez Dargaud. Mais on commence avec En silence de Audrey Spiry chez Casterman.
exactement. Donc, nouvelle bande dessinée qui est sortie dans le courant de l'été. Bande dessinée assez spéciale. Première bande dessinée publiée de l'auteur Audrey Spiry. Donc, pour faire un petit résumé, c'est l'histoire d'un petit groupe d'amis qui vont s'organiser une journée de descente de canyon, qui est appelée canyonisme, plutôt dur à dire, dans le sud de la France. Et donc, ça va être un dépaysement, un isolement. Les imprévus de l'expédition vont laisser un peu chaque personne face à lui-même, face à ses interrogations, confronté à lui, vraiment dans des situations assez intimes. Donc, c'est un sujet qui est assez calme en apparence. On n'est pas sur une bande dessinée qui va avoir beaucoup de rebondissements rocambolesques, mais c'est tout à son honneur justement d'avoir pris un sujet qui est plutôt difficile à exploiter, qui est beaucoup plus intérieur, et d'avoir réussi à sortir une bande dessinée qui est tout à fait fascinante. C'est un sujet qui est original, mais c'est d'abord et avant tout le traitement graphique qui donne vraiment un choc dans cette bande dessinée-là.
On parle de quel genre de traitement graphique, justement?
C'est un traitement graphique qui a été réalisé en peinture numérique. Donc, c'est pratiquement violent, je vous dirais, quand on ouvre la bande dessinée, au niveau des couleurs qui sont très contrastées, qui sont extrêmement présentes aussi. On n'est pas dans un univers qui est très réaliste non plus, parce que justement, la couleur ne reflète pas vraiment là, la vie généralement, sauf qu'elle va vraiment refléter les émotions des personnages. Ça rend compte vraiment très bien de l'univers végétal et animal qui est surtout mis en valeur, parce qu'on est vraiment dans un contexte de canyon, de grands espaces verts, de reflets d'eau qui est extrêmement présent. Donc, c'est ce qui va donner vraiment du relief à l'histoire, là.
Et donc, vraiment, le côté ambiance qui est accentué au niveau naturel, et comme tu dis, ça reflète aussi l'esprit, les émotions des personnages, ben il y a un côté humain qui est très important, donc une dualité d'ambiance qui est offerte dans ce récit-là.
Oui, exact. Puis on suit quand même en alternance l'évolution des personnages, mais il y a un personnage principal qui est le personnage de Juliette, qui va vraiment être le fil conducteur de l'histoire. Donc, c'est elle qui va lier tous ces personnages-là ensemble. C'est elle qu'on suit dans cette caverne-là, dans la caverne, dans l'ombre, la lumière, le dehors et tout, le soleil. Donc, on fait une espèce d'analogie entre la renaissance et la remise en question. Donc, quand elle rentre à l'intérieur de la caverne et à l'intérieur des sources d'eau, on sent vraiment une intériorisation de ses sentiments. On sent qu'elle est pas nécessairement en paix avec elle-même, mais qu'elle est vraiment en interrogation. Et c'est là où c'est le moment de se questionner. Et surtout, sa relation de couple, en fait. Donc, c'est vraiment là où on la voit rentrer dans l'aventure en ne sachant pas trop où elle s'en va, et ressortir tout à fait sereine avec les décisions qu'elle prend.
Donc vraiment quelque chose à découvrir qui est pas comme on est habitué côté BD, entre guillemets, là.
Exactement, c'est une BD qui est pas nécessairement facile à décrire, parce que faut vraiment la lire. Ceux qui sont familiers avec le genre de dessin de Merwan ou de Bastien Vivès, par exemple, vont peut-être se sentir interpellés. On peut aller chercher peut-être une certaine ressemblance entre ces auteurs-là, mais dans les gens qui aiment la bande dessinée contemplative, histoire humaine et personnelle, vont être charmés, j'ai l'impression.
Alors ça, c'est En silence de Audrey Spiry, c'est chez Casterman Collection, KSTR. Et Anne-Marie, on saute au deuxième, nouvelle série Islands.
Oui, donc ça vient tout juste de paraître cette semaine. L'auteur Philippe Aymon, qu'on a connu surtout pour sa collaboration avec Jean Vanham sur la série Lady S. Pour résumer, on est en 1746. Ça se passe en Écosse. Donc, l'union va déchirer les Écossais entre les clans qui sont soumis aux Anglais puis les clans qui sont rebelles. Et un peu extérieur à cette folie-là, on suit un jeune peintre qui s'appelle Joseph Callender et qui est rentré depuis peu d'Italie, où il a fait un apprentissage avec des maîtres, et il va se mettre au service d'un chef de clan, donc le duc de Plaxton, pour faire le portrait de sa fille Amelia. Jolie jeune fille, bien sûr, vous vous en doutez bien. Et donc, le duc lui a choisi de s'allier aux Anglais, ce qui ne fait pas l'affaire de son fils William, qui lui est très hostile aux Anglais. Donc, c'est une BD de facture beaucoup plus classique, je dirais. J'avais pas l'intention de... C'est pas le genre de bande dessinée souvent qui m'attire a priori, mais je dois dire que je me suis vraiment laissée emporter dans cette bande dessinée-là, et qui est dans la catégorie des BD historiques, tout
donc
simplement.
On se laisse emporter par le scénario qui est bien ficelé, qui est bien écrit, bien rythmé.
Tout à fait bien ficelé. En fait, on voit que c'est un élève de Jean Van Am aussi, donc on peut reconnaître certaines manières d'écriture, par exemple, donc l'écriture à plusieurs niveaux, où on va aller chercher, c'est sûr qu'il y a une intrigue amoureuse, bien sûr, mais on suit aussi l'art de la peinture, donc le peintre dans ces années-là, surtout quelqu'un qui vient d'Italie, donc il y a eu un apprentissage avec des grands maîtres. Bien sûr, le carcan social et l'intrigue principale, donc qui est au niveau historique, soit la guerre que se sont livrés les Anglais et les Écossais.
Donc, en fait, sur un petit fond de Braveheart, peut-être, si on essaie de faire un pont vers la culture populaire, là.
Exactement. C'est un dessin, c'est ça, qui somme toute, c'est le genre de bande dessinée qui fait peut-être penser à d'autres trucs qu'on aurait déjà lus, par le passé. Mais c'est une bande dessinée qui est très efficace, qui est aussi comme beaucoup de nouvelles séries qui va être en deux tomes. Donc, okay. C'est pas trop long, non plus, c'est pas trop engageant non plus monétairement parlant. C'est un dessin qui est tout à fait réaliste. Des très beaux ombrages, et l'auteur s'est beaucoup, beaucoup promené dans les Highlands pour aller chercher cette espèce d'ambiance de grands paysages écossais, les arbres, les dunes et tout ça. Donc, c'est très, très bien écrit, très bien dessiné. Puis, c'est une série qui est très enlevante, je dois dire. Puis, franchement, on ne renouvelle pas le genre, mais dans le style 2, c'est tout à fait fascinant et pertinent.
Et on n'est pas obligé tout le temps de renouveler non plus. Des fois, on peut
exactement,
juste faire quelque chose de
exactement,
bon.
Exactement, c'est une bande dessinée qui fait passer un bon moment. On se laisse happer par cette ambiance-là de ces années-là qui ont été quand même assez mouvementées pour les Écossais. Et puis, on assiste à tout ce qui est une belle période. Donc, romantisme, les hommes qui se battaient vraiment âprement pour la belle de leurs rêves. Et voilà, donc, tout au travers de contextes de machination et de trahison. Donc, c'est tout à fait intéressant.
Et ça s'appelle Highlands.
Highlands.
C'est de Philippe Aymon chez Dargo. Anne-Marie Olivier, ben merci beaucoup.
Merci.
Et on se dit à dans deux semaines.
Tout à fait.
Alors voilà donc les commentaires BD d'Anne-Marie Olivier. Et on poursuit à la vie en BD. Autre extrait de Music for Money, la pièce Dérive. Petit regard, peut-être un peu de rattrapage également sur une BD qui est sortie cet été. On parlait de grands espaces tout à l'heure avec Anne-Marie. Eh bien, celle-là s'y intéresse entièrement et totalement. Et à ma connaissance, en fait, il y a peu de bandes dessinées qui s'intéressent à ce type d'espace-là. On parle des montagnes, on parle d'alpinisme, parce que c'est une bande dessinée d'alpinistes. Et force est d'admettre, en fait, que les amateurs de ce sport risque peut-être d'être intrigué par ce one-shot qui est offert par Nicolas Debon chez Dargo. Ça s'appelle L'invention du vide. L'histoire qui oscille entre réalité et fiction, qui s'inspire des écrits d'Alfred Frederick Mummery, qui est considéré comme l'un des pionniers de l'alpinisme moderne. Alors, avec un trait qui est efficace, qui est très beau, Debon nous présente une série de récits et d'anecdotes liées à la conquête des Alpes. Donc, en parallèle avec un récit principal qui est l'ultime conquête, on pourrait dire, donc la conquête de la plus haute et de la plus inaccessible des aiguilles de Chamonix. Alors, ce qu'on découvre là-dedans, c'est d'un côté les tribulations, les réflexions, les stratégies, les approches des alpinistes. Donc, comment contourner telle façade, comment conquérir telle paroi. Et évidemment, à travers tout ça, c'est véritablement une plongée aussi vers d'autres manières de faire, vers la façon dont on faisait l'alpinisme au 19e siècle, qui est évidemment bien différente de l'alpinisme d'aujourd'hui. Les équipements qui, pour les amateurs du sport, vont sembler profondément désuets, même pour moi qui ne connais pas le sport, ça semble également plutôt désuet. Donc, on dit, mon Dieu, comment font-ils pour accomplir des exploits comme ça avec ce matériel-là? Donc, il y a un côté impressionnant aussi quand même là-dedans. Et évidemment, puisqu'on parle de montagnes, de grands espaces, il faut être capable de les rendre en images. BD oblige. Et comme on le mentionnait tout à l'heure, ben Debon s'en sort agréablement bien. En fait, le dessin qui semble ancré dans l'époque qu'il représente, une esthétique qui est délavée, qui rappelle les tonalités qui ressortent des photos d'antan. Certaines cases qui sont littéralement vertigineuses, en fait, qui réussissent le temps d'un instant là, à nous faire ressentir la notion d'espace, l'impression du vide, et surtout en fait une palette et une technique qui sied à la représentation des grands espaces aussi, donc côté graphique c'est intéressant. Donc ce qu'on dit globalement, c'est une bande dessinée tendance sportive qui vient apporter un éclairage intellectuel, parfois presque philosophique à la discipline, qui paiera, on l'imagine, à tout amoureux de la montagne. Alors ça s'appelle L'invention du vide, c'est de Nicolas Debon et c'est chez Dargaud. On prend une courte pause, à venir Gauthier Langevin et Simon Banville.
L'imagination de l'homme gagne chaque jour du terrain.
À l'occasion du 40e anniversaire de la librairie Pantoute, pendant le festival Québec en toutes lettres, le studio P présente Les enfants d'Asimov.
Tout ça est absolument fantastique.
Expo-vente de livres sur la science-fiction et le fantasy.
C'est fascinant, professeur.
Vous êtes collectionneur? Vous voulez partager votre passion avec le public? Un espace d'exposition vous attend du 12 au 14 octobre dans l'expo-vente Les enfants d'Asimov au Studio P.
Oui, c'est exact.
Pour plus d'informations, écrivez-nous à spiché@commerciallibrairiepantoute.com. Pantoute, votre libraire depuis 40 ans.
C'est tout à fait remarquable.
Tout ce qui tombe, trois décennies, quatre histoires d'amour, six destinées qui s'entremêlent. Tout ce qui tombe, un texte de Véronique Côté dans une mise en scène de Frédéric Dubois. Une coproduction du Théâtre du Trident et du Théâtre des Fonds-Tiroirs, présentée par Hydro-Québec. Tout ce qui tombe, à l'affiche du Théâtre du Trident jusqu'au 6 octobre, information 641-8131 ou letrident.com.
Connu pour son magnétisme, sa voix chaude et son sens artistique, Mike DeWay et ses trois musiciens complices vous invitent le 28 septembre à la nouvelle salle de spectacle, la scène Le Bourgneuf.
Mais c'est où? C'est où que t'es allé?
Énergique et émotionnel, Mike DeWay promet du blues et rien que du blues.
Le blues me fait rêver, une main dans mes vallées.
Mike DeWay, le 28 septembre, 20h, à la scène Le Bourgneuf, 815 boulevard Le Bourgneuf.
Et où es-tu parti?
Billets en vente dès maintenant sur le réseau Billetech ou à lascenelebourgneuf.com.
Écoutez, le dimanche de 22h à 23h, La Croche-Oreille, la seule émission en art audio et électronique au Québec. Animé par Jean-Pierre Gay et Ariane Plante, La Croche-Oreille est présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Pour débuter votre soirée du vendredi à CKRL, dès 18h30, Jean-Sébastien Grondin vous offre de la musique soul et R&B à l'émission Soul Finger. À 19h, Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi vous font tourner du funk d'hier à aujourd'hui. À 20h, pour la 20e saison, Michel Dubois présente l'émission Rue d'Auteuil, du blues mur à mur. Restez branchés!
Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes de CKRL 89.1. Je vous rappelle que vous pouvez consulter nos blogs, notamment wordpress.com, donc lavieenbd.wordpress.com, également Raymond Poirier, donc sur voix.ca/Raymond-Poirier, et finalement également sur Facebook, vous avez simplement à chercher La Vie en BD. Et puisqu'on est dans la sphère du web, eh ben mentionnons au passage que le Québec a désormais son premier portail, ou l'un de ses premiers portails de BD en ligne, c'est kimik.com, K-I-M-I-Q.com. Et après donc des mois de préparation, ben ça a été lancé assez récemment, somme toute. Et pour nous en parler, pour nous présenter cette plateforme web-là, ben nous sommes en compagnie du chef du projet, Gauthier Langevin, bonjour.
Bonjour, Raymond.
Et alors, peut-être première question, en fait, pourquoi justement décider de démarrer une plateforme web? Est-ce qu'on s'est dit que c'était un peu l'un des axes d'avenir de l'édition en BD?
Oui, entre autres, là, on a fondé ça, en fait, au début du mois de septembre, mais ça se préparait depuis à peu près le début de l'année 2012. On s'est principalement inspiré de ce qui se fait de plus en plus dans le milieu anglo-saxon, en webcomic, et puis on s'est dit que les artistes au Québec pouvaient aussi à leur tour bénéficier de ce genre de structure-là d'édition alternative en ligne.
Oui, parce que dans le fond, c'est d'abord et avant tout une structure de diffusion, et j'imagine une structure de diffusion qu'on espère devenir rentable aussi dès que possible.
Oui, exactement, c'est ça. C'est un portail, en fait, qui regroupe plusieurs séries de bandes dessinées qui sont publiées à chaque semaine. Donc, à chaque jour de la semaine, il y a une page d'une série différente qui est diffusée sur le site web Kimik.com. Et puis, à terme, nous, on vise à rentabiliser chaque série en produisant une gamme variée de produits dérivés et, ultimement, de livres. Donc, au bout de une cinquantaine de pages ou une soixantaine de pages, on va éditer aussi les projets en sous forme de livres.
Oui, parce qu'en fond, il y a toujours cette idée qu'en bande dessinée, peut-être comparativement même à d'autres médiums littéraires, on reste attaché à l'objet et il y a ce sentiment que le web pourra pas entièrement remplacer l'expérience qu'on a en lisant un album de bande dessinée.
Oui, mais c'est vrai, c'est un peu paradoxal, en fait, parce que à la fois, le médium de la bande dessinée se prête très bien au quotidien, parce que, bon, tout le monde connaît les phonies du dimanche matin, là, qu'on lisait, tel Mafalda, Garfield, où on constate qu'avec l'arrivée d'Internet, il y a de plus en plus de gens qui lisent de la bande dessinée de manière quotidienne sur leur ordinateur. En rentrant au bureau le matin, on va lire une page de bande dessinée auquel on va être inscrit via les fils RSS. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une forme de fétichisme, si je peux me permettre, entourant l'objet livre qui est comme super important pour le lecteur de bande dessinée. Donc, le projet Kimik est une manière de répondre à ces deux besoins-là, ces deux réalités-là. Puis, je pense que c'est un modèle d'affaires qui gagne à être connu puis à être exploré par les artistes là.
Oui, mais enfin, je veux dire, d'un côté, on bâtit un public, on fait connaître une BD avec le côté feuilleton, avec la plateforme web. Pour ceux qui veulent poursuivre l'expérience, il y a l'album au bout de ça aussi. J'imagine qu'il y a quand même un défi aussi de se distinguer ou compétitionner entre guillemets avec justement les blogs BD qui sont bien établis, des plateformes aussi qui existent déjà qui elles sont bien établies. Donc de réussir à se distinguer, à se faire un nom.
Ouais, ben c'est, je crois que le fait de se rassembler derrière une bannière commune, ça peut aider justement à gagner en visibilité. Donc chacun tire un peu l'autre à son tour en amenant chacun sa fanbase ou ses lecteurs vers éventuellement d'autres séries qui font partie de la même du même portail. Et puis c'est sûr que nous on publie à la fois aussi en anglais et en français, donc le but c'est de diffuser aussi aux États-Unis, puis le fait que ce soit sur le web, ça nous permet d'être visible aussi en France, donc c'est des lectorats qu'on va cibler aussi, puis c'est sûr que la compétition est beaucoup plus féroce aux États-Unis en termes de webcomic puis de blog, là. Donc, on veut avoir une très bonne qualité aussi, là, même si c'est en ligne, puis que parfois, il y a peut-être des préjugés autour de la publication en ligne, c'est un peu de moins bonne qualité. Nous, on est conscient qu'il y a quand même une compétition de plus en plus féroce, donc il faut qu'on livre un produit de grande qualité qui se compare à tout ce qui est publié présentement.
Et si on fait un rapide survol de ce qu'on y trouve, c'est assez varié d'ailleurs qu'au côté offre BD-esque. Notamment, il y a Purgatoire d'Yves Rodier, où on trouve Dracula, Bonnie and Clyde, Alexandre le Grand, dont l'âme est prisonnier, en fait, tout en plus. Là, c'est assez sauté.
Oui, Purgatoire, c'est de Yves Rodier et Cécile, qui est une auteure de bande dessinée française, qui a déjà publié à plusieurs reprises chez Soleil, d'ailleurs. Oui, c'est assez éclaté, là. Donc, c'est de prendre une espèce d'histoire typique pour enfants, mais de mettre dans la peau de jouets puis de toutous des espèces de dictateurs et d'affreux personnages que l'histoire a connus, en fait. Là, puis de leur faire passer un mauvais quart d'heure dans la peau de toutous qui sont martyrisés par des enfants.
Oui. Il y a aussi Yann Mongrain qui offre Dominique.
Oui, ça c'est une super belle série, un peu entre la contemplation puis la poésie. C'est un peu une forme de purgatoire, ça aussi, Dominique, de Yann Mongrain, parce que c'est l'histoire d'un fantôme qui part à la recherche de son ami dans un espèce de monde imaginaire, là, très, très onirique. Là. C'est très beau.
Et justement, quand on parle de style varié, ben déjà, c'est assez éclaté avec deux. À ça, on rajoute Yvon Roy, qu'on connaît principalement pour son travail de caricature, notamment sur voir.ca, qui offre sur votre plateforme Rivière d'ombre.
Oui, Rivière d'ombre, qui est un... Yvon Roy avait fait aussi une bande dessinée qui s'appelait Agaguc, il y a peut-être 3-4 ans,
qui était
l'adaptation de Agaguc en bande dessinée. Puis là, il arrive avec quelque chose de complètement différent, donc une espèce de récit en bande dessinée, d'une histoire un peu peut-être à la qu'on pourrait comparer à une histoire de Faulkner, donc très... très axé sur l'ambiance. Donc c'est l'histoire d'un chasseur qui va tomber sur une maison en plein milieu de la forêt, puis qui va être amené à découvrir les étranges habitants de cette maison-là. Donc à mi-chemin entre un roman du terroir, peut-être, puis Texas Chainsaw Massacre, mais l'avenir sera nous dire.
Et finalement, en fait, parce que pour l'instant, c'est quatre web-séries, on pourrait dire, qui sont présentes sur Kimik.com. C'est la série sur laquelle tu travailles avec des collaborateurs, Far Out, un western qui avait fait, si je me trompe pas, ses débuts dans Front Froid.
Oui, mais on a testé un petit peu l'esthétique dans différentes publications avant de lancer la série sur Kimik. C'est vrai qu'on avait la couverture du tome 5 du collectif Le Front et prend place dans le même univers que Far Out, donc une planète désertique qui est habitée par des cow-boys robotiques on suit l'évolution d'un robot qui atterrit sur cette planète-là par accident, puis qui va découvrir une espèce de société de cow-bot, donc de robots cow-boy.
Oui, ça permet de renouveler un peu le style western qui est quand même assez présent en BD, mais justement de l'amener un peu ailleurs, là.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est vraiment drôle parce que le fait de mettre des robots, ça nous permet d'aborder des sujets qui sont caractéristiques du western, comme la liberté ou même la spiritualité, le destin, d'une manière complètement différente. Et puis, mais en même temps, on veut rester quand même assez classique, là. Ça va rester du western classique, mais avec des robots. Parce que Olivier Pimon, on est deux fans de western. Puis, finalement, les robots, c'est presque juste un prétexte pour faire du western en 2012.
Et d'y aller comme ça, Gauthier Langevin, avec la diffusion de page par page, justement, sur une plateforme web, sur Kimik.com, est-ce que ça change la manière dont on aborde le scénario? Parce que j'imagine que il faut que les planches donnent envie de revenir, il faut qu'il y ait un petit sentiment de finitude aussi.
C'est une alchimie qui s'apprend au fur et à mesure, je pense. C'est sûr qu'on peut pas penser le scénario complètement de la même manière que quand c'est publié d'un seul coup. Il faut pas, ça aide à vraiment bien construire les pages aussi, je pense. Il faut qu'on porte une attention à la chute de chaque page, finalement, pour vraiment donner envie comme tu dis, aux gens de revenir. Mais c'est pas très différent quand même. Mais disons que c'est vrai qu'il faut qu'on porte une attention particulière à chaque page.
Et donc, tout ça, on découvre sur kimik.com. Et en terminant, en 30 secondes, Gauthier, de quelle manière on voit la plateforme un peu évoluer? Qu'est-ce qu'on espère? Avoir plus de BD, plus d'offres autour de ça?
Oui, bien, on est déjà en discussion avec quelques autres auteurs pour avoir environ une dizaine de séries d'ici le mois de décembre. C'est notre objectif. Donc, ça va pouvoir... On va avoir vraiment une offre très variée, puis je pense que tout le monde va pouvoir y trouver son compte éventuellement. Là.
Alors, ben, on aura l'occasion de voir ça grandir et évoluer et progresser. Gauthier Langevin, donc, chef de projet de Kimik.com, je le rappelle, c'est Kimik.com. Eh bien, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et au plaisir.
À bientôt, bye.
Bye-bye. Alors voilà, et nous, on écoute un dernier extrait de Music for Money, City Landscapes. Dernière rencontre pour cette semaine à la vie en BD, une bande dessinée en fait qui est apparue tout récemment chez les étals des libraires aux éditions Les 400 coups. C'est le tome 2 de la série Asymptote, une série que vous connaissez peut-être, on le mentionnait en début d'émission, notamment en fait présente sur le 24 heures, dans l'autre journal, etc., etc. Donc, tome 2 qui vient d'arriver, c'est écrit par Simon Banville et il est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, en quelques mots peut-être, en fait, si on présente l'univers d'Asymptote, on est un peu dans le script à tendance sociale, à tendance absurde aussi.
On est dans, je te dirais, des tableaux un peu, des tableaux, des situations humoristiques, déjantées, avec une saveur toujours, sociopolitique, engagée, oui.
Et à travers ça, donc, on retrouve le personnage de Pois Asymptote qui est au centre de ça, lui et sa famille. Peut-être d'abord d'emblée, qu'est-ce que vous a amené vers ce personnage-là? Pourquoi un personnage animalier aussi?
Ça a glissé vers ça il y a à peu près une dizaine d'années. Au début, le personnage d'Asymptote existait. C'était un personnage qui avait des grands pieds, qui circulait de case en case. Là, moi, je fais du strip comique, là, pour ceux qui connaissent pas beaucoup la série. Donc, de case en case, le personnage, ses pieds circulaient, puis à un moment donné, je me suis dit, oh, ce personnage-là, il m'intéresse moins, je vais l'enlever, puis j'ai continué avec son animal domestique, qui était l'oiseau jaune, le plus gros, et puis au fil du temps, j'ai rajouté son fils, Pou, qui est un petit poussin déplumé, et puis j'ai rajouté ensuite ses amis, qui ont des caractères très distincts et particuliers, chacun qui anime, disons, la bande dessinée beaucoup plus aujourd'hui, donc, qui est vraiment rendu le cœur de la bande dessinée. Donc, c'est Oiseau qui est l'espèce de cacatoès poule qui s'est pas volé. Et ces petits poussins-là qui font l'action de la série.
Et ça devient à un moment donné nécessaire aussi, justement, pour aller renouveler le gag, les interactions, la manière dont on peut exploiter l'univers, d'avoir quand même une belle brochette de personnages disponibles, justement.
Oui, ben ils représentent souvent, en fait, la façon que j'ai travaillé mes personnages, c'est qu'ils représentent les stéréotypes qu'on peut retrouver dans la société. Par exemple, Pou, c'est celui qui organise, qui est le créatif, qui est le chef de la gang. Par contre, son leadership est souvent contesté par Mok, qui est un petit peu plus dictateur, qui va toujours chercher le profit, qui est un peu comme au niveau politique, un faucon. Philippe, qui lui, il est complètement disjoncté, il va être le type à croire à les théories du complot et tout ça. Qui va amener une action un peu plus absurde à la série. Puis autour de ça, c'est comme ça que j'ai développé mes personnages pour amener justement un dynamisme.
Et qu'est-ce qui vous a orienté vers le strip? Parce que c'est ça fait un bon bout de temps, justement, comme vous le disiez, que vous en faites depuis 2010, même avec Asymptote. Donc, qu'est-ce qui vous charme dans l'idée, justement, de créer des récits comme ça en quatre cases?
Ben, je crois que c'est l'idée d'amener un propos et de le soutenir avec un bon punch. Par exemple, je vais parler de finances, je vais parler de différentes... Ben là, j'aime pas ça raconter des blagues à la voix, parce que c'est toujours beaucoup moins drôle que dessiner, mais je pourrais dire que l'important, moi, je trouve que c'est tout le temps d'y aller court et d'y aller à la... comment dire, au principal de ce qu'on veut dire quand on a un propos pour faire la bande dessinée.
Oui, c'est ça, force à limiter les mots, à limiter le dessin, à aller à l'essentiel, dans le fond.
Oui, c'est ça, à bien cerner aussi le propos que tu veux dire, à vraiment rechercher le petit commentaire et la bonne blague qui va dire « Ah ouais, c'est vrai, c'est comme ça que ça fonctionne, ça ». Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, puis en même temps, le travail du strip à l'intérieur d'un album, il est aussi de faire une suite à travers toutes ces mini-punchs-là, finalement, et donc de développer les personnages-là et de sentir comme un univers qui a un fil qui est relié. Ça, c'est un autre défi qui est aussi intéressant.
Oui, effectivement, parce que sinon, ça devient disparate, peut-être un peu disjoncté, dans ce cas-là, dans Asymptote, tome 2 notamment, ben, c'est regroupé par thème, par réflexion, il y a une évolution, il y a des ponts qu'on peut faire de strip en strip, autant au niveau des décors, des propos, etc.
Mm-hmm. Ben, Oiseau, par exemple, lui, il se cherche un emploi tout le long de l'album. Ça marchera jamais. Ça va continuer dans le prochain album. C'est le genre de choses que j'aime bien apporter quand j'amène un album, parce que quand ce qui arrive aussi avec le 24 heures, les diffusions au quotidien dans les journaux, c'est que peu de gens vont avoir l'opportunité de lire toute une série au complet.
Non, effectivement, fait que ça force d'un côté à avoir des strips, donc des cases qui fonctionnent très bien de manière autonome, mais de l'autre côté, de pouvoir être en mesure, dans le cadre de l'album, donc de les intégrer dans quelque chose de plus global.
C'est
un bon défi, somme toute.
Oui, ben non, mais c'est un défi que Schulz avait, que Kino aussi avait. Je pense qu'il y a plusieurs maîtres à penser très, qui en font encore. Ce que j'aime bien lire aujourd'hui, moi, c'est, mettons, Pearl for Swine. En tout cas, sur Go Comics, là, y a des centaines d'auteurs comme ça, ils sont pas tous très bons, là, mais c'est le défi du comic strip que de faire quelque chose qui se tient au jour le jour, puis qui se tient en entier dans son ensemble.
Oui, un bon défi de création aussi, dans la mesure où ça devient quand même une production presque quotidienne, du moins qui est nécessité. Bon, ça veut pas dire que vous dessinez à chaque jour, mais ça sollicite un rythme de production qui est quand même assez élevé.
Oui, c'est une gymnastique. Ça prend souvent, quand on arrête pour des vacances, ça prend souvent un mois avant de recommencer à être à l'aise. Sinon, c'est ça, c'est comme un sport. Il faut juste se reprendre l'entraînement, puis à un moment donné, le cerveau est à l'aise dans tout ça. Là. On vient qu'à faire nos propres brainstorming, puis d'être très efficace en équipe, même si on est seul.
Et justement, est-ce qu'on se promène un peu avec un cahier de notes, parce que c'est quand même beaucoup d'éléments qui sont inspirés de choses liées à l'actualité, au débat de société. Est-ce que c'est un peu donc le quotidien politique, entre guillemets, ou social qui vient vous inspirer?
J'ai souvent pensé à me promener avec un cahier de notes en tant que tel, mais ça n'a jamais fonctionné. Faut vraiment, moi, mon truc, c'est de m'asseoir puis de faire, d'aller lire les nouvelles, d'aller faire une liste des thèmes qui m'intéressent, d'aller sortir tout ce qui est possible de faire avec mes personnages sur un thème particulier, puis de trouver quelque chose qui m'intéresse le plus. Rarement, le samedi matin, je vais faire comme « Oh, faut que je note cette idée-là ». Rarement, c'est très rare. Ouais.
Mais dans le fond, l'idée, c'est d'organiser un peu sa création, sa réflexion, de faire des brainstorming, de toujours s'assurer d'avoir quelques idées, justement, pour pas qu'il y ait de travail perdu, entre guillemets.
Ouais, mais comme je dis souvent, faut avoir confiance en ses idées un peu moins bonnes, pour les garder, pour les noter, quand on est assis à son bureau pour travailler, là. Même si les idées sont moins bonnes, souvent, on peut les renverser, on peut les connecter à une autre idée, on peut soudainement penser à une réaction qu'un personnage pourrait avoir, qui fait en sorte que l'idée qui était peut-être qu'on trouvait moyenne devienne très bonne finalement. Puis ça, c'est tout dans ce travail-là, tu sais, avec, ben, je dirais que ça fait une quinzaine d'années que j'en fais, mais je dirais que c'est vraiment un point qui m'a vraiment aidé, que de tout le temps garder les idées, même celles qui sont un peu moins bonnes.
Et parallèlement, en fait, au niveau sélection, bon, l'album est quand même assez touffu. Il y a beaucoup de stocks, il y a beaucoup de strips. Comment s'est passé un peu la sélection? Est-ce que ça s'est choisi un peu en fonction des thématiques, en fonction des coups de cœur, où vous avez essayé de mettre le maximum, tout simplement?
En fait, l'album Veuillez changer votre mot de passe, c'est un album qui regroupe ce que j'ai fait entre 2009 et 2011. Mm-hmm. Je pense qu'il y a eu environ maximum 6 ou 10 bandes dessinées qu'on a enlevées. J'ai fait l'arrangement moi-même, donc les bandes sont pas nécessairement dans l'ordre dans lequel j'ai créé. Puis avec le directeur artistique au 400 coups, on a choisi de faire un album plus touffu, de 5 bandes dessinées au lieu de 4 par page, comparativement au premier tome. Mm-hmm. De toute façon, en ce moment, j'ai la production là pour faire un autre album l'année prochaine au besoin. Ça va vite, hein, 5 par semaine.
Effectivement, ben en fait, puis en même temps, on n'est pas habitué à en voir autant, mais on n'est pas déboussolé non plus par la quantité, au contraire. Là, c'est genre de BD à strip, souvent on est capable de les lire rapidement, peut-être un premier coup, tandis que ça nécessite aussi un bon temps de lecture, si on peut dire, ce qui n'est pas négatif là, du tout.
Ouais, ben tu sais, on peut toujours reprocher à certaines bandes dessinées d'être trop courtes à la lecture, mais je pense que dans mon cas, je la connais beaucoup, je me suis pas assis pour la relire d'un bout à l'autre. Je pourrais faire ça ce soir, mais j'ai pas eu le temps de lecture exact là, de tout ça, mais je pense qu'il doit être à peu près d'une heure à peu près.
Et parallèlement, Simon Banville, est-ce que vous avez envie aussi de vous lancer dans la structure album ou cours d'histoire de manière parallèle? Je sais que vous aviez fait, je crois, dans Histoire d'hiver il y a quelque temps.
Dans le concours de l'ENA, oui. J'avais fait une histoire qui s'appelle La petite fille qui s'est comptée. Et puis, non, mais c'est un genre que j'aime bien. J'ai toujours eu des projets en parallèle, sauf que depuis 2 ans, je suis vraiment à temps plein sur Asymptote. C'est sûr que j'aimerais ça. J'avais un projet de science-fiction que j'avais déposé à Front Froid aussi. Il y a toutes sortes de choses comme ça quand on fait de la bande dessinée qu'il faut, peut-être garder en plan pour plus tard, mais c'est ça. Mais pour l'instant, je suis vraiment à 100% dans Asymptote.
Et en même temps, il doit avoir un plaisir pour un auteur, pour un BDiste, de pouvoir exploiter puis se concentrer sur un personnage comme ça, dire que c'est son personnage, dans le fond. Là.
Oui, ben c'est sûr. Il y a tellement à développer, ça prend tellement de temps de développer une série que je te dirais que c'est la meilleure chose à faire. Ben, en fait, c'est ce que j'ai décidé parce que je crois que c'est la meilleure chose à faire, c'est de se concentrer sur une seule chose. Puis on verra comment ça va m'amener avec les années, puis au pire, je ressors d'autres projets.
Et on parlait donc du matériel pour un éventuel troisième qui est déjà disponible. Est-ce qu'on s'est donné un échéancier de parution pour un troisième album?
Ben là, avec les 400 coups, on vient de sortir le 4 septembre dernier le Veuillez votre mot de passe. Mmh. Habituellement, on devrait s'enligner vers l'année prochaine. C'est sûr que je sais pas quelle est la solidité ou quel est l'intérêt ou quel est le rythme que veut avoir les 400 coups par rapport à ça. On verra, comme on dit. On espère en sortir un chaque année.
Et d'ici là, ben justement, on découvre le tome 2. Veuillez changer votre mot de passe de la série. Donc, Asymptote, c'est au 400 coups. Simon Banville, merci beaucoup.
Merci à toi.
Et voilà donc, et je donne d'ailleurs le site internet aussi asymptote.ca si vous voulez avoir un peu plus d'informations. Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, pour une autre édition de La Vie en BD avec un spécial Québec en toutes lettres. Donc, plusieurs auteurs qui seront de passage pour nous parler d'événements BD qui s'en viennent dans la capitale. Alors ben voilà, c'est Raymond Poirier au micro. C'était un plaisir d'être avec vous cette semaine et on se dit à la semaine prochaine.